Chers auditeurs et chères auditrices, aujourd'hui nous avons l'étude numéro 5, toujours concernant le salut. Eh bien, nous aurons un témoignage. Un témoignage d'un homme qui plus tard est devenu un serviteur de Dieu. Donc le témoignage que vous allez entendre, c'est évidemment le témoignage de cet homme. Cet homme avait dit « J'étais totalement perdu », mais qui, par la grâce de Dieu, est devenu un serviteur mondialement connu. Et voici son témoignage. Je n'ai pas le droit de dire son nom, c'est ainsi qu'il le désire. Seigneur, a-t-il dit un jour, est-ce réellement votre intention que vos amis vivent dans un état de gloire et de victoire, même au milieu de l'adversité? Cela fut donc la question, et c'est lui qui parle, vous comprenez. Alors je dois dire « je ». C'est son témoignage. Ce fut la question que je posais à Dieu il y a quelque 50 ans, alors que j'acceptais le Christ comme mon sauveur personnel. L'on peut lire sa réponse dans les pages du manuel du fabricant, c'est-à-dire la Sainte Bible. Et cette réponse est un oui retentissant. Alors, comment expliquer le fait que très peu de gens vivent dans cette gloire et cette victoire? C'est ce que j'ai demandé à Dieu. Et sa réponse me fut donnée en lisant 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. L'homme psychique n'accueille pas ce qui est de l'Esprit de Dieu. C'est folie pour lui et il ne peut le connaître, car c'est par l'Esprit qu'on en juge. Isaïe chapitre 1, verset 5. Toute la tête est endolorie, le cœur est tout malade. C'est ce que dit Esaïe, chapitre 1, verset 5. Et Colossiens, au chapitre 2, verset 8, nous dit « Veillez à ce que nul ne fasse de vous sa proie au moyen de la philosophie ». Ce qui veut dire attention aux philosophes, aux moqueurs et à tous ceux qui disent « Mais voyons, mais tu ne penses pas que… » ou encore « Mais qu'est-ce que tu fais des païens ? Qu'est-ce que tu fais concernant les mécontents ? Qu'est-ce que tu en fais de particulier à ces ternes et sinistres dispensateurs de doute qui, par des moyens rapaces, essayent de ne pas reconnaître les miracles de Dieu dans notre monde d'aujourd'hui. Or ces écrits nous parlent pourtant bien clairement. Et je savais que l'empêchement numéro 1 à la vie victorieuse, c'est la paralysie de l'analyse, cette paralysie laquelle est causée par la machine à calculer, telle que le Big Brother qui contrôle chacun sur la Terre, Google, etc., etc. Voyez-vous ? Et je continue donc, si vous le voulez bien, le témoignage de ce serviteur. voici ce qu'il dit encore. Il y a environ 45 ans, le Seigneur m'a aidé à me souvenir de toutes les religions, les philosophies et les cultes qui m'avaient tellement fasciné durant mes années de paganisme. Et il me fit voir ce que ces religions et cultes avaient à m'offrir à mesure que je descendais pouce par pouce, centimètre par centimètre, dans cette boue noire et sale, et laquelle ne représentait que trop bien le péché dans ma propre vie. Par exemple, Confucius disait « C'est mieux que tu t'éloignes des places telles que celle-ci, jeune homme. » Et après m'avoir donné ce bon conseil, il continua son chemin et me laissa m'embourber encore davantage et plus profondément. Bouddha disait que ça te serve de leçon, mon petit gars, et j'enfonçais davantage. J'avais été bouddhiste et je savais que de telles aventures devaient servir de leçon, alors dans ma prochaine réincarnation, je ferai certainement beaucoup plus attention. Mohammed ou Mahomet soupirait et disait « C'est la volonté d'Allah ». Christian Science disait « Ce n'est qu'une erreur dans votre manière de penser ». Vous n'êtes dans aucune sorte de trouble. Vous ne pensez pas de la bonne façon. Voilà tout le problème. Donc, j'avais été un Christian scientist, mais la bonne manière de penser ne m'avait absolument pas guéri du péché. Alors, j'enfonçais un autre pouce. Et il ne me restait pas trop de pouces à gaspiller. Les hindous m'avaient dit « Meilleure chance à la prochaine incarnation. Tu as eu une mauvaise tournée. Tu arrives, en effet, avec le corps d'une puce pour l'instant. Mais courage, la prochaine fois, tu pourras nous arriver avec le corps d'une mouche. » Or, la sale boue me faisait enfoncer encore un peu plus. Les évolutionnistes m'ont dit « Tout ce que vous avez besoin est un peu plus de temps, car le temps guérit tout, mon gars. » Mais je devenais pire à chaque minute. Le yoga me disait « Transcendez votre problème » et je m'étais assis et j'avais les jambes croisées, contemplé pendant tellement longtemps que j'en avais marre de toute cette histoire et je souhaitais qu'une marguerite me pousse de par le nombril, histoire de briser un peu la monotonie. Les unitariens avaient dit « Tout ce que vous avez besoin est de répandre davantage d'amour. » Mais comment se servir de l'amour pour sortir d'un bourbier ? Une diseuse de Bonaventure me disait « Consultez Zodiac. Les étoiles ont toujours la réponse. » Mais ce jour-là, les étoiles ne brillaient pas, car il y avait d'épais nuages et il y avait un terrible ouragan qui se pointait à l'horizon. Donc, il n'y avait aucune étoile ce jour-là. Alors, évidemment, je m'enfonçais encore. Darwin disait, « Vois-tu, c'est la sélection naturelle. Si vous êtes fort, vous survivrez. » C'est ce qui me faisait très peur, m'embourbant d'un autre pouce, je prouvais mon ineptie pour quoi que ce soit, pour n'importe quoi, j'étais perdu, sauf pour être enterré vivant. Aristote souriait quand il disait « Mon pauvre gars, connais-toi toi-même ». C'était justement le trouble. Je me connaissais et je me dirigeais, tout en me connaissant, vers le fond du marais boueux. Platon disait « La vérité, c'est la réponse. Ne cherchez que la vérité. » Mais il ne parlait pas d'une vérité tangible, d'une vérité vivante. Et la vérité, dans ses termes à lui, voulait dire que j'étais sur la route qui mène à la perdition. Zoroastre disait « Mettez-y beaucoup de bonne volonté. » Mais j'avais tout gaspillé la mienne, et ça ne m'avait rien donné. J'en étais rendu au bout de ma corde. Alors un psychiatre disait « Ne vous sentez pas coupable, surtout pas. Tout ce que vous avez à faire est de sortir et de faire n'importe quoi, tout ce qui vous passe par la tête. Même si vous pensez que c'est un péché, ce n'est pas vrai, et ça vous fera du bien. Mais j'étais dans une telle servitude qu'il n'y avait pas moyen d'aller nulle part, ni de faire quoi que ce soit. J'avais aussi essayé frontières spirituelles, la nouvelle pensée, le réarmement moral et tout le tralala. Rien de tout ça m'avait aidé. Je m'enfonçais de plus en plus jusqu'au temps où je semblais presque irrémédiablement perdu. Il n'y avait donc aucune religion, aucune philosophie que je n'avais pas essayé. J'ai absolument tous essayé ce qui se trouve sous ma main. Quoi qu'elles prétendaient toutes être très différentes, or elles étaient toutes pareilles, c'est-à-dire sans valeur aucune, me laissant à sec comme un cadavre misérable, vide, morne, terne et sentant même la charogne. Mais alors enfin, voilà que Jésus entra dans ma vie. Et il dit, je suis le chemin. Je suis le seul chemin. Donne-moi ta main, tout simplement. Je ne me suis pas argumenté en disant, mais que faites-vous des autres? Je lui ai donné ma main et il me donna la sienne. Il me tira de ce sale trou noir et fétide et me plaça les pieds sur le roc solide. Non, au fond, ce n'était pas Jésus lui-même en personne qui physiquement m'a tiré du bourbier ce jour-là, quand j'étais tout enlisé dans le marais. Mais chose très curieuse et d'une manière absolument incroyable, à la toute dernière minute, quand je retenais mon souffle parce que je sentais que la prochaine respiration que je prendrais pourrait très bien être la dernière. Alors, Jésus, c'est sûrement lui qui a fait cela, il a envoyé deux étrangers de par les bois afin qu'ils me tirent de ma tombe boueuse. Oh, je n'ai jamais su les noms de ces étrangers. Je ne les avais jamais vus auparavant et je ne les ai pas revus depuis. Mais je ne serais pas trop surpris si les hommes qui m'ont tiré de ce sale gouffre de boue étaient deux anges envoyés pour me délivrer. Le jour où je le rencontrai en personne, Jésus-Christ, spirituellement, le jour où il me tira de ce noir bourbier du péché et me lava de toute tache, je n'étais plus du tout le même. J'étais un adulte embarqué dans la plus grande aventure de toute ma vie, celle d'apprendre à vivre comme un enfant d'un roi. Chers amis, comment recommencer en neuf? Eh bien, soudainement, toute la haine, tout le tourment, toute l'amertume et la culpabilité ont complètement disparu. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 17 et 18, s'annonçait en moi. Si donc, est-il dit, si donc quelqu'un est dans le Christ, c'est une créature nouvelle. L'être ancien a disparu, un être nouveau est là. Et le tout vient de Dieu le Père, lui qui nous a réconciliés avec Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, et nous a confié le ministère de la réconciliation. Quand je découvris la belle simplicité de ces versets, il me fallait dire, il faut qu'il en soit quelque chose. Oui, qu'il y a sûrement quelque chose de plus que ça. Ne faut-il pas que je fasse moi aussi quelque chose? Et là, je reçus tout à coup la paix que je ressentis dans mon for intérieur, et en un clin d'œil, pour ainsi dire, au lieu du tourment lequel m'avait rongé pendant toutes ces années-là, si ça avait été tout ce que Jésus-Christ avait fait pour moi, ça aurait été plus que merveilleux et bienfaisant. Il faisait donc bon de savoir que je n'avais pas à lutter pour amasser assez de timbres de poste ou autre chose pour me ranger sur le côté de Dieu et de ses grâces et de me garder là. Car le sang de Jésus-Christ m'avait lavé blanc comme neige. Et pas seulement je le savais, mais je le ressentais. Un pasteur m'avait dit un jour que ça me serait très utile, sinon de rigueur, simplement de m'avancer afin de recevoir la chaleur et la camaraderie de l'église locale, c'est-à-dire de faire une confession publique de la vie nouvelle en Jésus-Christ et de ma nouvelle foi en lui. Alors je me rendis à une petite église, et quand le pasteur invita tous ceux qui le voulaient à s'avancer près du lutrin et de faire une confession de sa foi en public, une confession de sa bouche, disant qu'il avait la foi en Jésus-Christ dans son cœur, je m'avançai et je fis ma confession de foi. Ce n'était pas plus grave que ça. La Bible disait que les chrétiens du Nouveau Testament étaient baptisés par immersion, et c'est ce que le mot « baptizo » veut dire. Et si les chrétiens du Nouveau Testament le faisaient, c'était certainement bon pour moi aussi. À part ça, j'avais lu que Jésus avait été baptisé par Jean le baptiseur, dans le Jourdain, Jean-Baptiste. Et c'est ainsi que j'en arrivais à la conclusion que le baptême serait une bonne chose pour moi si je voulais marcher dans ses traces. Et quand je sortis de l'eau, j'étais quand même un peu désappointé. Je ne ressentais qu'une chose, que j'étais mouillé. Je croyais avoir fait quelque chose de tout à fait en dehors de l'ordinaire, de m'humilier comme jamais dans une petite église de campagne de cette façon plutôt primitive. Et j'attendis qu'une boule de feu tombe des cieux, mais rien de la sorte ne se produisit pour le moment. Oui, mais ainsi, voyez-vous, les chrétiens seniors, eux, m'ont accepté exactement comme j'étais. Et là, je commençais à grandir à mesure que Dieu me nourrissait. De plus, on peut dire de plus en plus, les vieilles choses de ma vie ont passé et toutes sont devenues nouvelles. Les vieilles choses ont été englouties dans la mer et le Seigneur les a même oubliées, tracées. Et je commençais à savoir que tout nous vient de Dieu le Père, parce qu'il nous le dit clairement. Et je commençais ainsi à lire la Sainte Bible en tant que manuel du fabricant. Je voyais Dieu comme le promoteur de toutes choses, Dieu le créateur, Dieu le manufacturier, parlant à sa création, son produit, les hommes, leur disant comment se servir de tout ce qu'il avait fait pour eux. Et je disais, Seigneur, Seigneur, je vais essayer chaque principe que vous apporterez à mon attention dans ce fameux livre. Je ferai des expériences. Tout ce qui marche, je le ferai à votre manière. Où voulez-vous que je commence ? Alors, m'étant rassuré que le manuel du fabricant connaissait son affaire dans tous les domaines que j'avais examinés, je commençais à lire la Sainte Bible avec de plus en plus d'intérêt. Or, un jour, je tombais sur un passage intéressant dans le premier chapitre du livre des Actes des Apôtres. Un jour, qu'il se trouvait Jésus-Christ au milieu de ses disciples, il leur prescrivit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'y attendre la promesse du Père dont vous m'avez entendu parler. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 4. Mais quelle était cette fameuse promesse? Les Écritures nous en donnent l'explication, car Jean le Baptiste a baptisé dans l'eau, mais vous, sous peu de jours, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 5. Baptisés dans l'Esprit Saint. Oh là là, quelle curieuse chose! On m'en a jamais parlé de tout cela. Qu'est-ce que ça voulait dire? Je répète, je n'avais jamais entendu parler de ça dans l'Église. Mais tout de même, je savais un peu que j'avais eu affaire avec l'Esprit Saint, parce que l'on peut lire dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 3, que au fond, personne, parlant sous l'action de l'Esprit de Dieu, ne dit anathème à Jésus, et nul ne peut dire Jésus est Seigneur que sous l'action de l'Esprit Saint. Et je l'avais accepté, lui, mon sauveur et seigneur, comme mon propre roi. J'avais accepté Jésus-Christ comme mon seigneur et sauveur personnel. Et je savais que j'avais certainement été baptisé dans de l'eau à l'église, puisque j'étais tout trempe, mouillé jusqu'à l'os, parce que l'on m'avait presque noyé dans la citerne. Mais cette affaire de baptême dans le Saint-Esprit, qu'est-ce que c'était exactement? L'Église ne semblait pas avoir beaucoup à dire sur ce sujet-là. Bon, en m'appliquant à mon étude personnelle de la Sainte Bible, systématiquement et aussi pieusement, sérieusement, je lisais un jour dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, « Aussi bien est-ce en un seul esprit que nous avons tous été baptisés pour ne former qu'un seul corps. » J'avais la certitude que ce verset parlait du salut, le baptême de ou par l'Esprit Saint, où il nous baptise dans la société du corps de Christ. Par ce baptême, nous devenons tous membres de son corps et en part égale, que nous soyons juifs ou grecs ou païens ou autres, nous avons tous été créés pour nous abreuver à son Esprit Saint. Nous avons donc eu un renouveau, une nouvelle naissance, et nous avons été faits membres de son corps de par ce fameux baptême par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit baptise et nous sommes les candidats et le corps de Jésus-Christ est l'élément qui devient notre demeure. Chers amis, vous qui venez d'écouter ce très court message qui au fond est le témoignage exact, comme je l'ai dit au début, d'un homme qui plus tard est devenu un serviteur de Dieu qui a parcouru le monde entier. Eh bien, pour avoir des enseignements un peu plus complets concernant le Saint-Esprit, je vous conseille de consulter tout simplement le site internet, moi je ne possède pas internet, mais certainement il y en a qui le possèdent, et vous consultez www.bibleexplique.ch et là vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour connaître ce que veut vraiment dire le baptême du Saint-Esprit. Et pour terminer ce très court message, témoignage, je voudrais vous donner quelque chose que le Seigneur m'a donné dans le cœur par l'Esprit Saint. Des paroles qui peuvent être un encouragement, voire même un enseignement, pour vous qui êtes à l'écoute. Voici donc ce que je voudrais vous transmettre. En même temps, c'est aussi une prière pour vous. Sachez que la grâce ne s'allie point avec le goût des choses de la terre. La grâce du Seigneur est d'un grand prix et elle ne souffre point le mélange des choses étrangères ni des consolations terrestres. Il faut donc écarter tout ce qui l'arrête si vous désirez qu'elle se répande en vous. Retirez-vous dans un lieu secret. Aimez à demeurer seul avec vous-même. Ne recherchez pas uniquement l'entretien de personne, mais que votre âme s'épanche devant Dieu en de ferventes prières afin de conserver la componction et une conscience pure. Comptez pour rien le monde entier et occupez-vous de Dieu plutôt que des œuvres extérieures. Car votre cœur ne peut être au Seigneur et se plaire en même temps en ce qui passe et ce qui se passe dans le monde. Il vous faut sévrer votre âme de toute consolation terrestre. Et c'est ainsi que le bienheureux apôtre Pierre conjure les fidèles serviteurs de Jésus-Christ de se regarder ici-bas comme des étrangers et des voyageurs. 1 Pierre, chapitre 2, verset 11. Ô, qu'il vous aura de confiance à l'heure de la mort. Oui, qu'il aura de confiance à l'heure de la mort. Celui, je dis bien celui, que nul attachement ne retient en ce monde. Je répète, qu'il aura de confiance à l'heure de la mort. Celui que nul attachement ne retient en ce monde. Mais un esprit encore malade ne comprend pas que le cœur soit ainsi détaché de tout, et l'homme charnel ne connaît point la liberté de l'homme intérieur. Cependant, pour devenir vraiment spirituel, il faut renoncer aux choses futiles et superficielles de ce monde. Si vous parvenez à vous vaincre parfaitement, vous vaincrez aisément tout le reste. La parfaite victoire est de triompher de soi-même. Oui, celui qui se tient tellement assujetti que le sens obéisse, que les sens obéissent à la raison, et que la raison obéisse en tout au Seigneur Jésus-Christ, celui-là, celle-là, est véritablement vainqueur de lui-même, d'elle-même. Si vous aspirez à cette haute perfection, il faut commencer avec courage et mettre la cognée à la racine de l'arbre pour arracher et pour détruire jusqu'aux restes les plus cachés de l'amour déréglé de vous-même et des biens sensibles et particulier de cet amour désordonné que l'homme a pour lui-même, naissent presque tous les vices qu'il doit vaincre et qu'il doit déraciner. Et dès qu'il l'aura subjugué pleinement, il jouira d'un calme et d'une paix profonde. Mais parce qu'il en est peu qui travaillent à mourir parfaitement à eux-mêmes et à sortir d'eux-mêmes entièrement, ils demeurent comme ensevelis dans la chair et ne peuvent s'élever au-dessus des sens. Celui qui veut suivre librement le Seigneur Jésus-Christ, il faut qu'il renonce à toutes ses inclinations déréglées et qu'il ne s'attache à aucune créature par un amour de convoitise ou particulier. Ainsi, j'ai essayé de vous transmettre, chers frères et sœurs, quelques paroles d'enseignement et d'encouragement. Que le Seigneur vous bénisse richement, car il vous aime. Et à demain matin, Dieu voulant, pour la suite, il y aura encore une vingtaine d'études sur le sujet du salut. Du reste, il y a environ 2 ans, j'ai déjà donné toute une série concernant le salut, mais ce n'est jamais trop, car le salut est la chose absolument la plus importante de tout, vraiment. Car sans le salut, même en ayant tous les dons de l'Esprit Saint, sans le salut, on n'aura pas la vie éternelle. C'est pas le tout d'avoir des dons. Il faut être sûr de son salut. Et ça, c'est le plus important de tout. À bientôt, à demain matin pour la suite. Au revoir.